Alors, vous vous rappelez que début de ce semestre, nous avons pris comme thème de réflexion la distinction entre les activités mentales dites de base chez Hannah Arendt ou fondamentales chez Bain. Et nous avons constaté que cette distinction était presque toujours, en tout cas dans tout ce que nous avons vu ici, tripartite. Tous les philosophes qui s'affrontent sur cette question, tous les psychologues qui s'affrontent sur cette question présentent trois classes fondamentales. C'est notable quand même. Et d'autre part, nous voyons maintenant que Brentano, qui est arrivé, en gros, à une distinction sur la base de la théorie de l'intentionnalité entre trois classes fondamentales d'activité ou d'état psychique qu'il appelle représentation, jugement et amour, vient par la douloureuse stratégie, n'est-ce pas, qui a été la sienne et la nôtre, enfin douloureuse pour nous surtout, d'ajouter au fait que l'activité psychique était dirigée intentionnellement vers un objet, ajouter qu'elle était aussi donnée dans la conscience interne comme susceptible d'être représentation de soi, conscience de soi, sentiment de soi. Nous parlons donc d'un acte, hein, qui devient conscient de lui-même, connaissant de lui-même et éprouvant quelque chose à lui-même. Ce qui est loin d'être absurde, hein, mais qui pose le problème de la relation entre ces trois classes fondamentales d'activité psychique et leur contrepartie dans la conscience interne. Et Brentano utilise deux séries d'expressions dont on peut se demander s'il n'aurait pas d'ailleurs pu utiliser les mêmes, au fond. Et c'est probablement le cas dans son esprit. Mais en tout cas, représentation, jugement et amour, qui sont les trois classes fondamentales, dans la conscience interne qui accompagne tout phénomène psychique, c'est-à-dire tout acte de représentation, tout acte de jugement, tout acte d'amour, mais tout acte psychique en tant qu'acte de représentation, de jugement et d'amour, à la fois, eh bien, ce que j'appelle une seconde trinité, un second ternaire, Brentano le détaille en représentation, connaissance, sentiment. Bon, voilà les deux séries de termes, disons, qu'utilise Brentano pour articuler le rapport donc, entre les trois classes fondamentales qu'il a distinguées en psychologue et le triple phénomène de la conscience interne, qui est ce qui correspond à notre vie psychique, dans laquelle, effectivement, nous avons conscience de percevoir du rouge, d'aimer cela et d'avoir aimé une personne qui portait un chapeau rouge, que sais-je, une muletta, si on aime les toréadors. Bon, enfin c'est Carmen, n'est-ce pas? Bon. Alors, articuler le rapport entre les trois classes fondamentales, ce qui leur correspond dans la conscience interne, avec donc ce que Brentano appelle le triple phénomène de la conscience interne, hein, avec la distinction entre objet primaire et objet secondaire, voilà, c'est extrêmement difficile, mais c'est la clé de toute la psychologie de Brentano en 1874. Articuler la division des trois classes fondamentales et celle qui lui correspond dans la conscience interne, la distinction, d'autre part, la distinction entre objet primaire et objet secondaire. Alors, Brentano le dit, notre recherche a montré que la conscience de l'objet primaire et celle de l'objet secondaire ne constituaient pas chacune un phénomène distinct. Voilà l'intérêt que Brentano voit dans sa théorie de l'objet primaire et secondaire, c'est qu'il n'y a pas en chaque homme deux consciences pour un seul phénomène. Si vous entendez sonner un piano, hein, il n'y a pas deux consciences là en vous ou qui seraient vous, hein, l'une pour entendre sonner, l'autre pour entendre que ça sonne. Bon. Vous voyez, alors, la conscience de l'objet primaire et celle de l'objet secondaire ne constituent pas chacune un phénomène distinct, mais, dit Brentano, deux parties phénoménales d'un seul et unique phénomène, l'audition. La pluralité des modes selon lesquels l'objet secondaire devient conscient ne supprime pas l'unité de l'acte psychique. Nous avons dû les saisir, et nous les avons saisis, ces modes, dit Brentano, comme les parties d'un seul être effectif. Donc, représentation, connaissance et sentiment sont les parties d'un seul être effectif. Et donc, en chacun de nos actes mentaux, nous retrouvons les trois. Alors, c'est assez difficile à saisir, c'est pour cela qu'il faut prêter attention aux termes et aux concepts que Brentano introduit pour penser cette coprésence, si l'on peut dire, des trois formes d'activité mentale en tant qu'elles sont données dans la conscience interne. Représentation, connaissance, affect. Quel terme utilise-t-il ? Alors, on a parlé tout à l'heure de fusion. Mais maintenant, il s'agit des trois formes de présentation d'une activité mentale à la conscience interne. Est-ce que fusion va suffire ? Non. On va parler de verflechten, d'enchevêtrement. Alors, c'est dans le chapitre 9 de la psychologie, dans toujours le même livre 2, que vous trouvez cette section intitulée « Comparaison des trois classes fondamentales avec le triple phénomène de la conscience interne ». C'est dans ces pages que ce que j'appellerais la dimension trinitaire de la pensée de Brentano se déploie le plus explicitement. C'est là qu'il met un mot, si vous voulez, sur la difficulté, sur le type de liaison existant entre les divers modes de conscience de l'objet second. Ce mot, c'est enchevêtrement total. Alors, enchevêtrement, c'est la traduction que Maurice de Gandillac donne de verflechten, das verflechten, l'enchevêtrement. Ici, c'est le verbe qui est utilisé. Les phénomènes des trois classes fondamentales, phénomène der drei Grundklassen, aufs innigste sich miteinander verflechten. Ils s'enchevêtrent de la façon la plus intime. Donc c'est le superlatif ici. Innigste. Car on ne saurait concevoir de liaison plus intime, là c'est le comparatif, entre ces trois moments. Donc l'enchevêtrement, les trois classes fondamentales d'activité psychique sont enchevêtrées. Les éléments qui leur correspondent dans la conscience interne, ce qui m'arrive quand je me représente quelque chose, quand je juge quelque chose, quand j'éprouve quelque chose, eh bien, à chaque fois, les deux autres activités sont présentes dans l'activité dont je parle, et que je prends comme élément principal. Donc, il n'y a pas trois phénomènes psychiques, il y a un triple phénomène psychique. Vous voyez ? Tout phénomène psychique est triple. Les trois aspects, ils sont toujours. Bon, bien sûr, quand je juge, bon, je ne fais pas que me représenter, mais les deux éléments, représentation et sentiment, accompagnent, sont enchevêtrés à mon jugement, etc. Vous voyez, enchevêtrement total. Donc, dans le triple phénomène psychique, il faut saisir ce que Brentano veut éviter. Quel est l'avantage de parler d'un enchevêtrement total ? Eh bien, cela vous dispense précisément de ce qu'on pourrait appeler un regressus à l'infini, un regressus ad infinitum, et on va voir pourquoi. En tout cas, la pluralité des modes de conscience est ramené à l'unité par l'enchevêtrement dans la vie psychique de la Vorstellung, de l'Erkenntnis et du Gefühl, de la représentation de la connaissance et du sentiment qui correspondent donc à la représentation, au jugement et à l'amour, les trois classes fondamentales. Cet enchevêtrement intime est une donnée fondamentale. Alors, est-ce que cet enchevêtrement correspond à la périchorèse augustinienne? Oui et non. Oui, mais pas en tant qu'augustinienne. Et ça pour trois raisons au moins. Je veux dire par là que Brentano ne dépend pas d'Augustin, loin de là, dans ce qu'il nous représente ici, en termes d'enchevêtrement. Il ne va pas chercher dans sa théorie de l'Einwohnung ou de l'inexistence quelque chose chez Augustin. Même s'il dit qu'Augustin a pensé quelque chose de cela, il ne dépend pas de lui pour dire ce qu'il dit, lui, Brentano. Il faut bien insister là-dessus. Alors, comment pouvons-nous dire ça? Eh bien, pour une série de raisons. La première, c'est que la psychologie, au point de vue empirique, ne reprend aucun des ternaires d'Augustin que vous voyez exprimés ici. Il y en a d'autres, mais en voici quatre. Mens, notitia, amor. Ça serait tentant, évidemment, de rapprocher cela d'Augustin. Il ne le fait pas. Memoria, intelligentsia, voluntas. Ça serait tentant, mais pourtant, il n'y a pas de référence à cela. Memoria sensibilis, la mémoire sensible, la vision intérieure et la volition. Fichtre, on croirait lire du Brentano, mais il n'y a pas de référence à cela. Mémoire identifiée à intellect, science et volonté, ça serait tentant, mais il n'y a pas de référence à cela. Et ces ternaires pour Augustin, rappelez-vous qu'ils sont l'image de la Trinité divine dans l'âme humaine. Le premier terme correspondant toujours au Père, le second au Fils et le troisième à l'Esprit. Donc, Brentano ne cite pas Augustin pour ce qu'il a à nous dire quand il nous parle d'enchevêtrement. Il ne cite pas Augustin, qu'il évoque d'ailleurs rarement et en général sur d'autres dossiers. Mais surtout, rappelez-vous ce qu'on a dit avant la pause. Brentano soutient qu'il n'y aurait aucune contradiction à penser qu'il existe une vie psychique où manquerait l'un ou l'autre, voire deux, pas plus, des genres d'activités psychiques distinguées. En l'occurrence, on pourrait imaginer une vie psychique, dit Brentano, où manquerait jugement et amour, où il n'y aurait que représentation. C'est concevable. Bon, mais évidemment, une thèse de ce genre exclut toute reprise, même modérée, du modèle trinitaire augustinien du psychisme, qui est issu, disons, du thème de la création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu en Genèse 1, 26. C'est trois ou c'est rien, mais ce n'est pas un seulement, vous voyez. On ne pourrait pas se dire augustinien en soutenant qu'un homme pourrait très bien n'être que doué de représentation, par exemple. Et si un tel être existait, alors il ne serait pas créé à l'image et ressemblance de Dieu, et donc ne serait pas un homme, et donc, eh bien, on ne serait pas chez Augustin. Vous voyez ? Donc, un homme qui ne serait que représentation ne serait pas un homme augustinien. Donc, l'enchevêtrement n'a pas pour source directe la structure d'immanence mutuelle décrite par Augustin, appelée depuis Jean de Damas périchorèse. Mais alors, d'où cela vient-il ? Eh bien, probablement de la lecture que Brentano fait de Thomas d'Aquin, qui aristotélise déjà beaucoup la théorie psychologique augustinienne. Mais bon, bien sûr, ça ne suffit pas. La notion d'enchevêtrement, à mon avis, elle est traçable dans le champ de présence au sens foucaldien du terme de Brentano, elle est traçable dans la psychologie écossaise. Il ne faut jamais oublier que l'horizon immédiat de Brentano, c'est les psychologues écossais, c'est l'école écossaise. C'est avec cela que, en dehors de Kant et de bien d'autres choses, il se confronte, c'est avec cela qu'il se mesure, et l'expression interconnecté, enchevêtré, etc., on n'a pas à chercher bien loin pour la trouver employée dans l'une des sources de Brentano, à savoir William Hamilton. La source de Brentano, c'est incontestablement, à mes yeux, William Hamilton. Donc ce psychologue et philosophe écossais, né en 1788, mort en 1856, Hamilton, qui utilise l'expression anglaise qui correspond exactement à l'expression allemande qu'on a vue tout à l'heure, Verflechten. Et j'avais mis en bas de la planche sur l'enchevêtrement la traduction anglaise actuelle de Brentano, faite par des Brentaniens anglophones, qui traduisent Verflechten par intertwined. Hein. Et ce terme est en fait un des synonymes du terme qu'utilise Hamilton dans ses leçons sur la métaphysique, interwoven, qui est souligné ici. Et Brentano lui-même va citer Hamilton. Donc, reprenons. Brentano fait allusion à Hamilton en critiquant ceux qui ont voulu placer la volonté au premier plan de l'activité psychique, alors que c'est la représentation qui doit être placée au fondement de tout. Hamilton, dit Brentano, s'est trompé, car c'est lui qu'il vise, dans son analyse de la volonté. Mais il a vu l'essentiel, c'est-à-dire l'entrelac, l'unité enchevêtrée, disons, des trois activités qu'il distingue, lui, Hamilton, à savoir connaissance, sentiment, volonté. Elles sont, dit Brentano, chez Hamilton, miteinander verwoben, qui est un synonyme donc, du verbe verflechten. Et il cite Brentano ce passage de Hamilton dans nos traités de philosophie, dit Hamilton. Donc ça, c'est la traduction française de la traduction allemande de Hamilton chez Brentano. Hein. Dans nos traités de philosophie, la connaissance, le sentiment et la volonté peuvent bien figurer chacun à part dans des livres et des chapitres, mais dans la nature, ils s'enchevêtrent. Dans toute modification, même la plus simple de l'esprit, la connaissance, le sentiment et la volonté se trouvent réunis pour former l'état psychique. Donc, pas besoin d'Augustin ici, vous avez en toutes lettres une thèse où on vous dit que dans la plus simplest modification de l'esprit, knowledge, feeling and desire will go to constitute the mental state parce qu'ils sont toujours interwoven, ils sont toujours mêlés, mélangés. Alors, Brentano critique Hamilton tout en reconnaissant qu'il a vu l'essentiel. Mais je dirais que Brentano exagère, comme souvent, dans la mesure où Hamilton n'est pas si loin de lui qu'il veut bien le dire. Je vous demande simplement de comparer ce passage de Brentano qui dit « La représentation est le plus simple des trois phénomènes psychiques, le jugement et l'amour impliquant toujours une représentation. Elle en est aussi le plus indépendant puisqu'elle est le fondement des autres. Pas de jugement sans représentation, mais on pourrait avoir une représentation sans jugement. C'est pour ça qu'elle est aussi le phénomène le plus universel. Hamilton a écrit, la faculté de connaissance est certainement celle qui vient en premier dans la mesure où elle est la condition sine qua non des autres. Et nous sommes capables de concevoir un être qui posséderait la capacité de reconnaître l'existence et qui, pourtant, serait totalement privé de tout sentiment de peine et de plaisir ou de tout pouvoir de désir et de volition. D'autre part, nous sommes totalement incapables de concevoir un être qui serait doté de sentiments et de désirs et qui, en même temps, n'aurait pas, serait dépourvu de la connaissance d'un objet quelconque sur lequel ses affections pourraient se porter et qui serait en même temps dépourvu d'une conscience de ses affections mêmes. Donc vous voyez, c'est vraiment la théorie de Brentano en anglais, en un peu moins filandreux, ce que je vous demande de noter, c'est « possessed of the power of recognizing existence ». Parce que dans une expression qui n'a l'air de rien, capable, doté du pouvoir de reconnaître l'existence. Eh bien, ça, ce sont des expressions pour lesquelles il faut un certain sens de l'histoire de la philosophie pour voir ce qui s'y cache. Et ce qui s'y cache, en fait, ça n'est rien de moins que la conception médiévale de la connaissance intuitive, ce qu'on appelle la notitia intuitiva. La connaissance intuitive, au XIVe siècle, c'est ce qu'on appelle, c'est par cette expression que l'on désigne la connaissance que l'on a d'une chose en tant qu'existante. Et cette connaissance intuitive, elle est représentationnelle. Donc une représentation qui serait présentation intuitive, donner intuitivement de la chose en présence, eh bien, c'est ni plus ni moins que cette capacité de reconnaître une chose comme existante. La notitia intuitiva, et on y reviendra, la connaissance intuitive telle qu'on l'a définie au XIVe siècle se distingue de la connaissance abstractive, qui est celle qui est le mode de connaissance par lequel nous nous représentons et connaissons une chose indépendamment du fait qu'elle existe ou pas. Vous voyez ? Donc on n'est plus chez saint Thomas, on n'est plus dans une psychologie de type aristotélicien, on a fait passer un grand coup de rasoir au camien ou pas, on n'a plus que deux, en fait c'est d'un Scott, qui commence, mais on a deux modalités de la connaissance, la connaissance intuitive, à savoir une relation de cognition avec une chose en tant qu'elle existe. Et sa seule présence, d'une certaine manière, suffit pour que je me la représente. Et je me la représente comme existante, puisqu'elle m'est donnée en présence. Une chose ne peut pas m'être donnée en présence si elle n'est pas. Donc, une chose qui existe m'est donnée à titre de présentation, c'est-à-dire d'intuition. Eh bien, cela, un être qui est doté de cette capacité de se laisser affecter, si l'on peut dire, par la montée ou venue en présence d'une chose qui devient présente pour lui, c'est un être qui est doté de ce qu'on appelle bêtement capacité représentative. Il est capable de se représenter quelque chose. Non, il est « possessed of the power of recognizing existence ». Il est doté de notitia intuitiva. Donc, Hamilton a cette théorie. Il va falloir que nous comprenions ce qu'on doit entendre par Vorstellung. Parce que je vous ai cité la page de Mark Texter définissant la Vorstellung brentanienne comme une présentation et non comme une représentation. Et donc, qui dit présentation dit intuition. Qui dit représentation dit abstraction. Si on entend les choses comme on doit les entendre, c'est-à-dire si on entend dans l'anglais, le latin, n'est-ce pas, Bon, alors, je ne m'avance pas plus loin ici, mais si vous voulez, clairement, hein, on peut dire que Brentano s'est inspiré de Hamilton, puis qu'il a faussé compagnie à Hamilton là où il estimait que Hamilton se trompait, mais il en a repris les intuitions essentielles, à savoir la notion d'enchevêtrement. Interwoven. Je voudrais, pour conclure, peut-être évoquer les... Mais ce sera peut-être difficile avec le temps qui nous reste, mais à savoir plus de temps, mais voyons. Donc je pense que ça sera peut-être trop. Trop acrobatique. Donc nous en restons pour aujourd'hui à la formulation brentanienne du problème de la représentation consciente, qui est l'équivalent chez Brentano de ce que j'ai appelé le problème de la sensation consciente. C'est sur ce problème-là que Brentano est amené à formuler les deux théories des deux objets qu'on a mentionnés. Le problème qu'il tire d'Aristote est le suivant, et c'est ce qui l'amènera à formuler ces deux théories. Quand nous nous représentons un son, nous avons conscience de nous le représenter. Une question se pose alors, avons-nous dans un tel cas des représentations différentes ou une seule. Donc, se représenter un son, vous comprenez que maintenant, c'est entendre un son. J'entends un son. Est-ce que, quand j'entends un son, il y a en moi deux représentations ? Une représentation du son, un do, un la, un mi bémol, et une représentation de cette représentation, c'est-à-dire une conscience de cette représentation. Voilà le problème tel que le formule Brentano, et le problème tel que le formulait Aristote dans les deux traductions que vous avez sous les yeux, dont aucune n'est satisfaisante, hein, celle de Tricot et celle de Barbotin. Et on va s'arrêter là-dessus, mais c'est pour que vous voyez simplement la complexité des cinq lignes d'Aristote qui donnent naissance à des océans de discussion pendant plusieurs siècles. Puisque nous percevons que nous voyons et entendons. Donc, nous entendons, nous voyons, nous percevons que nous entendons et nous voyons. C'est nécessairement, ou bien par la vue, traduit Tricot, que le sentant perçoit qu'elle voit. Le sentant perçoit par la vue que la vue voit. Elle. Ou bien par un autre sens. Mais dans ce dernier cas, c'est le même sens qui sera à la fois sens de la vue et de l'objet de celle-ci, la couleur. Il en résulte ou qu'il y a deux sens pour le même sensible ou que la vue sera sens d'elle-même. Deuxième traduction. Puisque nous sentons que nous voyons et entendons, il faut que le sujet sente qu'il voit ou bien par la vue, ou bien par un autre sens. Mais en ce dernier cas, le même sens percevra à la fois la vue et la couleur de l'objet, par suite, ou bien deux sens porteront sur le même sensible, ou le même sens se percevra lui-même. Cette phrase, que je ne vais pas commenter maintenant, a fait couler, je crois, plus d'encre, mais un tout petit peu seulement, que la suivante, qui est la deuxième partie de l'argument. En outre, si le sens qui perçoit la vue est un autre sens, ou bien on ira à l'infini, ou bien l'un quelconque de ces sens sera sens de lui-même. Aussi est-il préférable d'admettre du premier lui-même cette aptitude. Alors, effectivement, c'est sur ces mots d'espoir que je vais vous laisser, à savoir que tout ce tintouin tout ce long détour, tout ce blablabla pourrait s'arrêter tout de suite, à savoir si on acceptait que ma vue de tel objet était ce par quoi je voyais que je vois. Mais donc, arrêtons-nous tout de suite au lieu de multiplier à l'infini. Eh bien, sauf qu'on n'aime pas s'arrêter tout de suite. Nous allons devoir nous arrêter. Mais ces deux arguments ont été au cœur de discussions qui nous mènent de façon continue d'Aristote à aujourd'hui. C'est vous dire, en attendant, dans 15 jours, où on abordera les choses d'une manière plus humaine. C'est promis et juré. À la semaine prochaine.